Electronic messages have arrived.
Bonjour. Ça va? Vous ne vous reposez jamais, vous?
Oui, tout à fait, Thierry, tout à fait.
Ce qu'il faut à la commune, c'est une expansion économique. Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique. Et qui plus est, une expansion économique génératrice d'emplois.
Je suis venu pour dire aux Français que cela suffit.
Bonjour à tous, vous êtes sur RDIWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Pour cette première émission de précision, nous allons aborder le sujet du chômage et de l'emploi. On ne voudrait pas rabâcher tout ce qu'on lit et tout ce qu'on entend sur ce sujet, mais essayer de comprendre le rôle et les actions de certains acteurs et voir les mesures qui vont être mises en place par le gouvernement pour essayer de résorber cette hausse démesurée. Donc d'après les derniers chiffres du ministère du Travail datant de fin avril 2013, du mois dernier, le nombre de demandeurs d'emploi a dépassé la barre des 3 millions. Alors cette barre est un peu symbolique puisqu'elle fait référence à 1997, mais le problème c'est que la conjoncture économique d'aujourd'hui n'est absolument pas la même que celle de l'époque. Actuellement il n'y a pas de croissance, nous sommes en période de crise et les mesures d'austérité ou de rigueur fait que le chômage va avoir tendance à augmenter. Une des populations touchés dans ces 3 millions de chômeurs, ce sont les jeunes de moins de 25 ans. Alors on s'est intéressé au rôle de la mission locale de Die, qui accueille et guide les jeunes dans de nombreux domaines, dont celui de l'emploi. Donc on va écouter Isabelle Murat, conseillère en insertion professionnelle à la mission locale de Die. Isabelle Murat, bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle de la mission locale de Die?
Alors, la mission locale, d'abord, c'est la mission locale Vallée de la Drôme. Sur Die, on est sur une antenne de cette grande mission locale qui se répartit sur l'ensemble de la vallée. Donc, il y a une antenne sur Livron, le siège à Cray, avec une antenne aussi sur Cray, et une antenne sur Die. Donc, on fait partie d'une grande équipe, c'est une petite équipe sur Die à disposition du Diois.
Voilà. Et donc, le rôle
Notre rôle, il est d'accueillir, comme toutes les missions locales, les jeunes de 16 à 26 ans. Enfin, la veille de leurs 26 ans. Donc, 16 ans, c'est sorti de l'obligation scolaire. Donc, c'est des jeunes qui ne sont plus en parcours scolaire, qui sont sortis, qu'il y a une rupture ou un arrêt, enfin, pour diverses raisons, et que l'on va accueillir à la mission locale pour étudier avec eux leur situation globale, les questions qui se posent à ce moment-là. Ça peut être des questions d'orientation, des questions d'emploi, des questions de formation, mais aussi des questions liées au logement, à l'autonomie et des questions de vie quotidienne aussi, quoi.
D'accord, donc ça englobe beaucoup de sujets, énormément de
voilà.
sujets.
Voilà, c'est un regard absolument global sur la situation du jeune.
D'accord, donc nous on va essayer de se concentrer un petit peu sur l'emploi et sur le chômage des jeunes qui est assez important actuellement. La mission locale a-t-elle des objectifs par rapport aux jeunes qu'ils accueillent, des objectifs de, je ne vais pas dire des chiffres, on vous impose certains...
Alors, oui, ça fait partie des gros changements des missions locales, c'est-à-dire que je suis en train de chercher les dates, mais c'est autour de 2008, on est passé sur le système de contrat d'objectifs pour le financement des missions locales. Effectivement, qui dit contrat d'objectifs dit chiffres et dit résultats à obtenir. Alors effectivement, c'est les grands systèmes qui sont mis un peu en place dans toutes les institutions. On part d'une idée, d'une thématique ou d'un axe de travail en disant, il faudra que ça concerne tant de jeunes. Et effectivement, on demandera est-ce qu'il y a un résultat pour tant de jeunes aussi. Voilà. Donc on est complètement dans ces contrats d'objectifs qui ont un petit peu changé nos modes de travail, nos méthodes et puis le regard que l'on a sur nous. Et le regard des financeurs aussi. Et on se défend en permanence de parler du qualitatif plutôt que du quantitatif.
Que c'est gênant pour vous d'avoir des objectifs, même si la qualité, enfin, comme vous dites, la qualité doit être au rendez-vous, est-ce que d'avoir des objectifs chiffrés, enfin voilà, est-ce que c'est gênant dans votre travail de tous les jours?
Alors c'est gênant à partir du moment où seuls les critères de chiffres comptent.
D'accord.
C'est pas gênant parce que ça permet d'avoir une lecture de l'activité qui est intéressante aussi. Et puis on parle comme ça aujourd'hui, hein, on a toujours un regard sur ça concerne qui, combien, les statistiques ont pris le dessus sur tout. Donc ce regard-là est intéressant, mais il faut pas qu'il domine et il faut toujours qu'on entende à côté pourquoi il y a ces chiffres-là et à quoi ça correspond.
D'accord. Alors vous avez parlé de jeunes dont vous vous occupez. Alors, vous avez parlé de jeunes qui sont issus du système scolaire à partir de 16 ans, donc généralement en rupture. Est-ce que vous pouvez faire un petit diaporama des différents profils que vous avez à la mission locale de Die?
Là, on va se situer, je dirais presque exclusivement sur la mission locale à Die, hein, sur les jeunes du DIY, parce que c'est aussi un public un peu atypique et différent de ce qu'on peut rencontrer ailleurs, et entre autres dans les missions locales urbaines. Je n'ai pas précisé, mais les missions locales, c'est un réseau national, une fédération nationale, déclinée en région aussi, et on en trouve de partout aujourd'hui en France. Hein, donc chacune, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes outils de travail, mais en fonction des profils des jeunes et comment on est organisé, il y a des choses qui sont bien différentes. Alors sur Die, la particularité, c'est d'avoir des jeunes qui sont particulièrement bien qualifiés. Donc d'accord. Ça, c'est un peu différent, le moins qu'on puisse dire. On a les jeunes qui sont diplômés, qui vont jusqu'à Bac plus 5. Dans certaines missions locales, dès qu'il y a le niveau Bac, ils ne reçoivent plus les jeunes parce que le flux est trop important.
D'accord, donc ils limitent...
Voilà. Donc sur Die, on ne limite pas l'accueil des jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas. Alors effectivement, on a des situations où les jeunes ont arrêté dès 16 ans, ou ont arrêté très tôt leur contrat d'apprentissage aussi. Et là, on a une petite population de jeunes mineurs, de 16-18 ans. Ça représente à peine 20% sur le public que l'on reçoit ici à Die. Voilà. Et on a une grosse majorité de jeunes qui sont diplômés, au moins sur un CAP, sinon à partir du niveau bac.
D'accord.
Bac et plus.
Et est-ce que vous avez des profils, des personnes qui ont déjà eu un premier emploi et qui ont du mal à trouver et qui souhaitent être orientées?
Oui, bien sûr. Oui, il y a eu souvent, majoritairement en tous les cas, des petites expériences d'emploi, surtout sur nos secteurs en emploi saisonnier, ne serait-ce que les vendanges, ne serait-ce qu'une activité d'été. C'est ce qui est plus fréquent.
D'accord. Donc le chômage des jeunes est très important aujourd'hui, c'est de l'ordre de 25% au niveau français.
Au niveau national, oui.
Est-ce que ce serait plus un problème d'orientation au collège, lycée ou des hésitations ou de la difficulté du marché du travail actuellement, quoi?
Il y a un petit peu des deux, un petit peu de tout, pas que des deux, mais de toutes les situations. D'une part, c'est un marché du travail qui n'est pas favorable aux jeunes, dans le sens où il y a quand même beaucoup de demandeurs d'emploi, beaucoup de gens qui recherchent du travail, et un employeur va plus s'orienter sur l'embauche, surtout dans notre secteur, hein, aussi, sur l'embauche d'une personne qui a une charge de famille, par exemple. Qui sera majeur aussi pour répondre à des besoins économiques évidents. Donc ça, c'est vrai que ça laisse les jeunes de côté par rapport à l'emploi, et les jeunes entre 16 et 18 ans, ça c'est sûr.
C'est pas un problème de confiance aussi par rapport aux jeunes?
Alors après,
des entreprises, quoi.
Après, effectivement, le deuxième postulat, c'est que embaucher quelqu'un qui a l'expérience, puisque ça se présente aujourd'hui, hein, sur les candidats, et un jeune qui n'en a pas ou qui n'a pas l'habitude de travailler ou qui n'a pas la régularité et le rythme du travail, c'est sûr que le choix aussi va se porter sur l'adulte. Voilà. Et puis, en dernier postulat, la question de l'orientation, je dirais qu'elle se pose pas trop sur notre secteur aussi, puisque la majorité de l'emploi que l'on trouve sur notre secteur n'est pas forcément de l'emploi qualifié, et qui peut être accessible un peu à tout un chacun, quoi.
D'accord. Donc en parlant on a parlé des qualifications des jeunes, des demandeurs d'emploi. Quelle méthode est préférable? C'est avoir des qualifications pour trouver un emploi ou alors avoir un emploi pour en acquérir par la suite?
Les deux situations peuvent se présenter aussi. C'est sûr qu'un jeune qui est qualifié va plus facilement trouver de l'emploi, ça c'est clair aussi. Hein. Si on parle du bâtiment... Un jeune qui sera qualifié en électricité, par exemple, que ce soit n'importe où, il trouvera plus facilement une situation d'emploi. En cuisine, c'est pareil. En animation aussi. Donc, effectivement, la qualification est un facteur déterminant pour trouver un emploi. Après, se former quand on est en emploi, obtenir une qualification, on l'incite aussi beaucoup par le biais des contrats d'apprentissage, et puis nouvellement avec les emplois d'avenir.
D'accord. Et est-ce que, par rapport à ça, est-ce que vous constatez une évolution depuis que vous travaillez pour la mission locale en matière de chômage, de qualification des jeunes? Est-ce que depuis quelques années, ça
Alors bien sûr, il y a des choses qui évoluent sur la difficulté, comme je disais tout à l'heure, de trouver un emploi très jeune. Hein, des 16-18 ans, ça, même avec eux, sauf s'ils ont un réseau familial qui permet d'avoir un emploi, on parle quasiment plus d'emploi avec eux, ça c'est clair. Sur la qualification, on va en revenir avec les emplois d'avenir, parce que effectivement, par exemple, c'est des postes qui demandent à ce que les jeunes n'aient pas le bac, ne soient pas justement sur un niveau d'études que souvent on cherche tous à obtenir, et ça pose problème sur les jeunes qui sont restés et qui ont bataillé pour avoir leur bac et qui l'ont obtenu, et puis aujourd'hui on leur dit non. Donc ça fait partie aussi des évolutions de un peu d'approche, hein, de mentalité aussi sur comment considérer l'emploi des jeunes.
Quand vous avez affaire à un jeune, quelle est votre politique? Vous anticipez en proposant des formations ou en orientant plus vers des formations quelqu'un qui n'aurait pas assez de qualifications justement, ou est-ce que vous lui proposez directement des offres d'emploi en lien avec le Pôle emploi?
Alors, quand on reçoit un jeune à la mission locale, on va dans un premier temps essayer de comprendre sa situation. C'est en fonction de ce qu'il va nous livrer. Ça peut être tout de suite, moi ça m'intéresse, il n'y a que l'emploi qui m'intéresse, il me faut un emploi tout de suite parce que j'ai besoin d'argent, j'ai un appartement ou je veux prendre un appartement, je veux être autonome et tout ça. Donc c'est en fonction aussi de ce qu'il nous livre et de ses besoins du moment. Donc on va étudier sa situation, on va prendre le temps. Donc à la mission locale, on a un premier accueil qui se fait souvent en collectif, enfin collectif sur 10, hein, c'est 2-3, c'est pas non plus des collectifs à 15 jeunes, où on va présenter globalement la mission locale, savoir ce qu'on peut apporter, faire comprendre nos outils, bon, une présentation un peu générale. Et puis après, on va le prendre en entretien individuel pour connaître sa situation et, comme on leur dit, pour faire un peu le tour de leur situation d'aujourd'hui, là où ils en sont et ce qu'on peut leur apporter. Ce qu'on peut leur apporter en termes de conseils, parce que notre travail, c'est d'abord du conseil, et puis de mettre en œuvre des outils qu'on a à disposition. Donc, on va voir ça avec eux. Donc là, ils vont nous l'ouvrir des choses ou pas. Et puis, on va avancer en fonction de ça. Et puis après, c'est sûr que si il n'y a pas du tout de qualification, notre tendance un peu première, ce serait de voir de quelle manière on peut amener de la qualification dans un métier qui intéresse. Et on va toujours partir sur le projet et sur l'envie, sur le désir du jeune, s'il y a aussi une envie de se qualifier, quoi.
D'accord, donc vous orientez en fonction de leur désir. Vous ne les orientez pas vers les secteurs en tension comme le BTP ou l'hôtellerie, comme on a évoqué tout à l'heure, qui sont en demande de main-d'œuvre assez fréquemment.
On va mettre en priorité le projet du jeune. Désir aussi, mais surtout le projet qui peut être intéressant pour qu'il puisse aller vers une situation professionnelle. Donc on va prendre en compte ces éléments-là, ces besoins sur le territoire, sur les domaines métiers qui sont en demande aujourd'hui. C'est assez loin souvent de justement des projets des jeunes. Donc, il y a un consensus à trouver, à voir ce qui est possible de faire avec et sans qualification et comment avancer sur le projet vraiment qui correspond aux jeunes aujourd'hui. Parce que le problème qui s'est posé souvent sur l'orientation, enfin au niveau de l'orientation scolaire, c'est que les jeunes n'ont pas toujours été orientés en fonction de leur projet, pour différentes raisons. Hein. Ça peut être des histoires de place, tout à fait basiques, mais ça peut être aussi parce que le jeune, à l'époque où ça se passe, n'a pas de réel projet ou d'idée en tête sur la question. Donc, on lui fait des propositions, il dit oui, pourquoi pas. Il y va, au bout de 3 ans, il s'aperçoit que c'était pas du tout ça. Donc, effectivement, à la suite, il faut retravailler ça, mais on part pas de zéro, on part d'une expérience qui a plus ou moins bien marché et sur laquelle il veut poursuivre ou pas poursuivre ou aller complètement à l'inverse.
D'accord. Et donc, du coup, il y a pas des défauts d'orientation, mais il peut y avoir des problèmes d'orientation. Est-ce que ça pose après la question de la formation pour les plus jeunes, entre guillemets, dès le collège, pour les faire découvrir certains métiers qu'ils ne connaîtraient pas? Est-ce que vous êtes favorable à la découverte de nouveaux métiers, enfin plus jeunes, que les stages, par exemple, qu'on fait assez quand même rarement au lycée, quoi?
Alors c'est une question beaucoup plus compliquée que ça. Parce que tout va dépendre de la manière dont ça va être abordé dans le milieu scolaire aussi, quels réels moyens va avoir le milieu scolaire pour aborder ces questions-là aussi, dans quel environnement familial évolue le jeune aussi. Tous les critères rentrent en compte, son désir d'autonomie, ses possibilités d'autonomie aussi dans ses choix, et les ouvertures qu'il a sur les environnements extérieurs aussi. Il y a des jeunes qui vont avoir une ouverture très très large parce qu'il y aura aussi eu beaucoup d'activités culturelles, sportives, un environnement qui permet de la découverte, d'autres moins. Le rôle de l'école, c'est ça aussi, hein, de pouvoir faire découvrir le maximum d'environnement aux jeunes. Donc ça dépendra franchement des moyens qui seront mis à disposition.
Et vous pensez que le système éducatif fait assez bien le job de ce côté-là, pour faire découvrir les...
Moi, je vais me cantonner à dire que c'est en fonction des moyens qu'ils ont et qu'ils se donnent, et puis de l'ouverture qu'ils ont pour traiter le problème. Je pense que sur dit, on est pas mal lotis sur la question. Après, plus généralement, c'est plus compliqué.
Voilà. D'accord. Alors, les travaux de la mission locale sont généralement reconnus pour leur qualité.
Merci. Ça fait toujours du bien de l'entendre.
Est-ce que vos méthodes diffèrent de celles de Pôle emploi ou elles sont complémentaires ?
Alors, on ne peut pas comparer, on est dans des conditions complètement différentes. Pôle emploi, on est souvent dans des termes d'obligation. Dans des situations d'obligation où les personnes sont obligées de s'inscrire à Pôle emploi pour chercher de l'emploi, pour bénéficier des dispositifs de Pôle emploi et très souvent pour être indemnisées aussi par rapport à la situation de chômage. Donc, on n'est pas sur les mêmes flux non plus. Pôle emploi sur Creil, je ne sais plus enfin les chiffres, mais l'accueil par jour est très très important. La disponibilité des conseillers et puis un peu la suite de la fusion entre ACEDIC et la NPE a fait que ils ne sont pas tous au même niveau sur l'information, sur la qualité d'information et sur leur disponibilité en termes de temps.
Ouais, il y a un gros problème de formation. Il y a un problème de formation des conseillers Pôle emploi aussi.
Des gens extrêmement bien formés parce que ça a été leur métier tout le temps où ils ont travaillé. Puis il y a des gens qui étaient complètement sur autre chose et qu'il fallait un temps de formation ou qu'il faut un temps de formation assez conséquent pour pouvoir absorber tout, les informations, les dispositifs, les possibilités de faire à Pôle emploi.
Oui, parce que les règles d'indemnité chômage sont très compliquées.
Le moins qu'on puisse dire.
Voilà, on est d'accord.
Et on ne s'engage jamais sur la question. Alors, Pôle emploi, voilà, on est sur une institution au niveau national qui a son fonctionnement, ses obligations et ses contraintes et ses difficultés à fonctionner. On en est tous conscients. Et les missions locales, on est dans des structures, d'abord sur un montage associatif qui est géré par les élus locaux. Donc, il y a une volonté politique aussi derrière. Pas le même flux et surtout les jeunes qui viennent nous voir, c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir s'ils ont envie de venir nous voir.
Après, il n'y a pas d'obligation.
Après, c'est sûr que si on veut avoir un financement de formation, si on veut avoir des dispositifs sur l'emploi, là, ils sont forcés de venir nous voir aussi. Mais ça fait partie de leur démarche sur l'emploi, sur la formation, qui est leur sort personnel. Et là, ils vont prendre contact avec nous et on va mettre en œuvre les dispositifs.
Sur la fusion ACEDIC et NPE, on en a parlé. Est-ce qu'il n'a pas été plus judicieux de fusionner aussi l'UNEDIC, qui est géré par les partenaires sociaux, et parce que ça fait deux entités, une qui gère les indemnités, puis l'autre qui gère le retour à l'emploi. Est-ce que ça n'a pas été plus judicieux de tout laisser gérer par l'État, quoi?
Je peux pas vous répondre à cette question. D'abord parce que j'ai pas participé au débat et puis je crois qu'il vaut mieux leur poser la question à eux. Et voilà, c'est le plus simple et le plus clair là-dessus. De toute façon, il faut savoir que c'est un système assez compliqué et peu lisible pour les personnes, surtout. Ouais.
Alors, le retour à l'emploi est le véritable enjeu aujourd'hui. C'est une priorité de chaque gouvernement depuis les années 80. Est-ce qu'une réforme du marché du travail est-elle souhaitable, selon vous ?
Réforme du marché du travail.
Ouais.
Je vois pas comment on peut réformer le marché du travail.
Bah, il est assez compliqué, plein de contrats différents.
Là, on n'est plus dans le marché du travail, on est dans le droit du travail. Le marché du travail, c'est l'offre de travail qu'il y a proposée pour les personnes qui recherchent de l'emploi. Là, les types de contrats, les charges sociales, tout le cadre autour du travail, là, on touche à des choses, droit du travail, droit des salariés, enfin, c'est un peu différent. C'est vrai que on est dans des discussions avec l'histoire de l'ANI tout récemment sur la sécurisation de l'emploi qui risque de rien sécuriser du tout d'ailleurs. Ça, c'est mon point de vue. CDD, CDI, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les CDD saisonniers, enfin, ça se cumule. Hein, on en a toute une liste quand on choisit le type de situation dans lequel on se trouve. On en a vraiment toute une liste. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour chaque contrat, il y a un droit. Et là, quelquefois, on se retrouve à plus savoir ce qui a été fait, bien fait, mal fait. Pourquoi il n'y a pas de temps de congé? Pourquoi il y a tout ça, quoi.
On parle.
Ça, c'est compliqué. Donc ça, c'est peut-être à regarder différemment, mais peut-être pas tout à fait ce qui se fait en ce moment.
D'accord, parce qu'on parle beaucoup du modèle flexi-sécurité qui est en vogue dans les pays nordiques, qui favorise aussi la précarité, mais qui permet aux entreprises de licencier plus facilement, donc d'embaucher aussi plus facilement. Enfin voilà. Est-ce que c'est souhaitable?
Là, on est un peu dans un autre champ que la question des missions locales.
Oui, évidemment.
Voilà,
ouais,
évidemment. Tout à fait. Après, c'est chacun son point de vue.
Mais en tant qu'acteur d'une mission locale, qui est acteur, justement du problème, est-ce que vous avez
Ce dont ont besoin les personnes actuellement et les jeunes, c'est de pouvoir y voir un petit peu plus à long terme que le CDD qui va s'arrêter la semaine prochaine. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. Les jeunes ne sont pas forcément très favorables à des situations pérennes sur du CDI en pensant que ça va faire toute leur vie. On n'est plus sur ces schémas-là, ça c'est clair. Mais par contre, d'avoir un peu de temps pour pouvoir s'installer, pour pouvoir prendre une autonomie, et d'arrêter d'être bousculé d'un endroit à un autre, de trouver les mêmes règles de fonctionnement en termes de droit d'un côté et de l'autre, ça c'est important. C'est important et c'est ce qu'on va trouver un peu dans le cadre des emplois d'avenir qui se mettent en place aujourd'hui parce qu'on a quand même un délai de 3 ans pour installer un certain nombre de choses. Et 3 ans, c'est pas aussi toute une vie, donc ça permet de se dire on va pouvoir faire aussi autre chose après.
Ça laisse une vision à moyen terme.
Voilà, ça laisse des possibilités et une vision à moyen terme.
Alors justement, parlons de ces emplois d'avenir qui sont entrés en vigueur le 1er novembre dernier. Alors vous êtes associé à cette démarche?
Ah ben complètement, oui. C'est les missions locales qui doivent assurer les signatures de conventions et l'accompagnement pendant ces emplois d'avenir.
D'accord. Est-ce que vous en avez déjà réalisé sur le DIWA depuis novembre?
Oui. Le DIWA était sur... Alors moi, je vais parler dans le cadre de la vallée de la Drôme. L'écho a été beaucoup plus favorable dans le DIWA que sur le reste de la vallée aujourd'hui. Les choses vont évoluer parce que on est en prospection, on est en contact avec les organismes, enfin les situations qui peuvent prendre des emplois d'avenir. Donc oui, ça a répondu favorablement sur le secteur, ça c'est clair.
Donc les emplois d'avenir, ils concernent surtout les institutions publiques, assez peu les entreprises privées quand même.
Alors on est sur toujours la différenciation sur le secteur marchand, secteur privé, et le secteur non marchand, c'est-à-dire collectivité et association, milieu associatif. Donc effectivement, la prise en charge n'est pas du tout au même niveau et les projets ne sont pas du tout les mêmes. Mais on voit ici sur notre territoire, on a une activité d'une part associative importante et une présence des collectivités locales, territoriales plutôt, qui est importante aussi. Et ça permet effectivement de faire des choses par rapport à 2 ans, 3.
D'accord. Et est-ce que ce dispositif qui est nouveau et qui est plébiscité par le gouvernement, est-ce qu'il a un réel intérêt et pour les jeunes et pour les
Ça a un intérêt évident pour les jeunes, ça c'est sûr. Il y a très peu développement d'informations autour de ces emplois d'avenir, moi je trouve, par rapport à ce qui préoccupe les médias aujourd'hui. Mais ça pourra en faire partie parce qu'effectivement, il correspond d'une part à une attente, à un besoin et à des possibilités de faire. On est sur une situation qui permet, quand on fait un projet sur 3 ans, ça permet effectivement de faire des choses et de se poser aussi et donc d'avancer réellement et de parler réellement de qualification, même quand on part de zéro ou de, enfin, d'un niveau de sans diplôme. Donc, et il y a plutôt un écho positif de ces emplois d'avenir sur les milieux d'emploi. Et on se retrouve avec effectivement quelque chose qui va être certainement très lourd financièrement, puisque c'est une prise en charge à 75%. Donc, c'est sûr que c'est lourd, c'est un gros investissement, mais qui peut apporter beaucoup.
Et est-ce que de le limiter au secteur non marchand, c'est pas restreindre aussi le...
Alors, il n'est pas limité au secteur non marchand.
Mais ça reste
surtout
quand même...
Le secteur non marchand, il est quand même assez ouvert. Et entre autres, il est aussi ouvert par exemple, sur le milieu hospitalier. Hein. Donc, on a une grande partie qui n'était pas touchée avant et qui va permettre de faire des choses parce qu'il y a une grosse demande de la part des jeunes sur ces milieux-là et des besoins en termes d'emploi aussi. Donc là, on va commencer à travailler avec l'hôpital de Lille là-dessus et ça avance. Donc ça donne des choses intéressantes. Sur le secteur marchand, il y a des possibilités, hein, il y a des prises en charge. Ça remplace un petit peu, c'est le même principe que le CIE, mais sur effectivement une possibilité là aussi de 3 ans. Donc ça permet de faire les mêmes choses. Après, l'aide n'est pas à la même hauteur que pour le secteur associatif ou collectivité. Je pense qu'il faut voir un petit peu les opportunités en ce terme de contrat, ce que ça peut donner sur le territoire, mais c'est sûr que ça donne aujourd'hui une réponse aux jeunes, ça c'est clair.
D'accord. Donc s'il y a des jeunes qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas au courant du rôle de la mission locale, on peut les inviter à venir vous voir ?
Tout à fait.
Donc ils peuvent
passer à la mission locale pour venir, pour voir ce que c'est. Et puis après, on va faire des choses avec eux. Ce qui est sûr aussi, ce qui est important de signaler, c'est qu'on va toujours faire les choses avec eux. On ne va pas faire les choses sans eux. Hein. On ne pourra pas s'occuper d'un jeune qui est venu s'inscrire et qu'on n'a plus revu derrière parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu.
Il faut qu'il y ait une réelle motivation.
Il faut qu'il y ait une réelle motivation. C'est à nous de la leur donner aussi, d'ailleurs. Mais on va rentrer sur un programme ensemble. Et puis on va avancer ensemble et que s'ils sont présents, bien sûr.
D'accord, donc ils peuvent aller vous voir à la communauté de communes. C'est à côté de la communauté de communes.
C'est à côté de la D'accord. communauté de communes.
C'est pas lié.
On travaille ensemble avec le site de proximité sur toutes les questions d'emploi et entre autres sur les questions du forum là, qui a lieu au mois de mars. C'est un travail qui est fait en commun. On est très en lien avec ce qui se passe. On est à proximité des locaux, donc ça en facilite effectivement les relations.
Et oui, justement, le forum qui a eu lieu en mars à la salle polyvalente, ça a eu un succès ou c'était... Comment vous l'avez perçu ?
Nous, on ne parle pas de succès, parce que ce n'est pas des journées à succès.
Non, évidemment.
C'est des journées
Vaut
qui sont
moins jeunes.
Voilà,
c'est sûr.
C'est des journées qui sont nécessaires. Nous, ça nous ferait plus plaisir d'avoir 60 personnes à la place de 400. Hein, on a eu 400 passages de demandeurs d'emploi, donc de gens qui cherchent réellement de l'emploi, de situations. Voilà.
Pas que des saisonniers. Hein, parce que...
Pas que des saisonniers.
D'accord.
Or, aujourd'hui, l'offre qui a pu se faire aussi à ce moment-là, c'est essentiellement du travail saisonnier, des petits contrats. Il y a eu une centaine de postes à proposer, une présence d'entreprises qui étaient là pour recevoir aussi les gens. Je dirais, moi, la journée a bien été organisée par rapport à un besoin. Voilà, je ne parlerai pas de succès.
D'accord, ok. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Murat d'être venue nous voir.
Je vous en prie.
Alors, on est de retour sur RDIWA. Nous venons d'écouter Isabelle Murat qui était conseillère en insertion professionnelle à la mission locale de Die. Alors maintenant, j'aimerais aborder l'accord national interprofessionnel qui a été signé le 11 janvier dernier sous la motivation du gouvernement entre partenaires sociaux, donc syndicats patronaux et syndicats de travailleurs. Cet accord national interprofessionnel est motivé par 2 buts. Donc, tout d'abord, sécuriser les parcours professionnels des salariés en créant de nouveaux droits attachés non pas au statut mais à la personne. Et dans un deuxième temps, donner aux entreprises la flexibilité nécessaire pour réagir efficacement aux fluctuations conjoncturelles et développer l'emploi. Alors, le volet de sécurisation des parcours professionnels comprend plusieurs choses. D'abord, la conservation des reliquats des droits à l'assurance chômage non consommés s'il y a un retour à l'emploi. Ensuite, la création d'un compte à la formation pour chaque salarié. Donc, ça veut dire que chaque salarié peut prétendre à 20 heures de formation annuelle par an. une extension des mutuelles à tous les salariés, qui serait financée à moitié par les employeurs et de l'autre moitié par les salariés. Ensuite, un meilleur encadrement du temps partiel subi, donc pour protéger les salariés des inconvénients et de la précarité qu'impose le temps partiel. Et enfin, taxer les contrats courts pour favoriser la généralisation des CDI. Voilà. Donc ça, c'est le volet de sécurisation des parcours professionnels. Et le deuxième volet, qui concerne la flexibilité du marché du travail, comprend tout d'abord des accords de maintien dans l'emploi si une entreprise fait face à des problèmes conjoncturels. Donc si elle... si elle fait face à un carnet de commandes peu rempli, elle va pouvoir mettre en stand-by, si je peux dire, des salariés, tout en les gardant dans l'entreprise, pour ensuite les remettre au travail. Ensuite, il y a la favorisation des plans de mobilité interne, donc d'un site à l'autre. Si sur un site, l'entreprise fait face à un problème au niveau de son carnet de commandes, si elle n'a pas de commandes ou si elle a peu de travail, elle va pouvoir le faire déplacer le salarié sur un autre site tout en gardant sa rémunération et son statut. De plus, le volet flexibilité apporte un meilleur encadrement des plans sociaux et des licenciements économiques. Et enfin, une diminution des risques judiciaires pour les employeurs en cas de licenciement. Alors, ça protège beaucoup plus les employeurs par rapport aux décisions prud'homales. Donc voilà, donc toutes ces mesures qui doivent être transposées par le gouvernement dans une loi pour l'emploi, fait débat. D'abord, par rapport à l'empressement du gouvernement, souhaitant éviter la voie de vote habituelle par le Parlement. Et ensuite, parce que toutes ces mesures ne satisfont pas l'ensemble des syndicats de travailleurs. Seules la CFDT, la CFTC et la CGC ont signé cet accord. Qu'en est-il de la CGT et de FO ? Ils n'ont pas trouvé de satisfaction dans cet accord. Donc, ils se sont abstenus lors de la signature. Alors, cet accord a été présenté comme l'expression d'un dialogue social, mais l'accord national interprofessionnel met en exergue les divergences des syndicats par rapport aux salariés et aux travailleurs. Les non-signataires s'insurgent devant un texte imposé et favorable au MEDEF et s'inquiètent des dommages que cet accord pourrait causer aux salariés. Selon la Commission européenne, une réforme du marché du travail est essentielle pour améliorer la compétitivité des entreprises. Cette loi pour l'emploi correspond au modèle de flexi-sécurité adapté aux spécificités françaises. Droits du travail, acquis sociaux, fiscalité, la réforme du marché du travail va de pair avec la situation économique de la France et est directement liée à l'état du chômage en France. L'accord pour l'emploi correspond donc aux normes voulues par Bruxelles, c'est-à-dire ne pas toucher au salaire mais participer à un assouplissement du marché du travail qui ne correspond pas actuellement aux exigences de la Troïka. Cela pose donc finalement la question de l'adaptation du pays face aux problèmes conjoncturels auxquels elle fait face, et c'est tout le débat qui tourne autour de cet accord pour l'emploi et qui aboutira à une loi dans les prochaines semaines. Alors, pour terminer cette première émission, j'ai découvert un petit bouquin, Manifeste des chômeurs heureux, paru le mois dernier aux éditions Libertalia. Donc ce texte apporte un autre regard sur notre système socio-économique et sur la situation du chômeur. Alors je vais vous lire un petit extrait, page 31. Nous savons tous que le chômage ne sera jamais supprimé. La boîte va mal, on licencie. La boîte va bien, on investit dans l'automatisation et on licencie. Jadis, il fallait des travailleurs parce qu'il y avait du travail. Aujourd'hui, il faut du travail parce qu'il y a des travailleurs et nul ne sait qu'en faire. Parce que les machines travaillent plus vite, mieux et pour moins cher. L'automatisation avait toujours été un rêve de l'humanité. Le chômeur heureux Aristote, il y a 2300 ans. Si chaque outil pouvait exécuter de lui-même sa fonction propre, si par exemple les navettes des tisserands tissaient d'elles-mêmes, le chef d'atelier n'aurait plus besoin d'aide, ni le maître d'esclaves. Voilà, donc merci de nous avoir suivis sur RDIWA. À bientôt pour une prochaine émission de Précision.
Electronic messages have arrived.
Bonjour, ça va ? Vous ne vous reposez jamais, vous ?
Oui, tout à fait, Thierry, tout à fait.
Ce qu'il faut à la commune, c'est une expansion économique. Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique. Et qui plus est, une expansion économique génératrice d'emplois.
Je suis venu pour dire aux Français que cela suffit.